Dr. Dave Mathewson, Littérature du Nouveau Testament. Conférence 32, 2 Pierre et Jude. Symbole copyright 2024 Dave Mathewson et Ted Hildebrandt. C'était le Dr. Dave Mathewson dans Histoire et Littérature du Nouveau Testament, conférence 32 sur 2 Pierre et Jude. Allons-y et commençons. Je sais que c'est une si belle journée, c'est difficile d'être à l'intérieur, alors je ferai en sorte que cela en vaille la peine. Si vous vous présentez, j'aurai un morceau de papier ici, vous signerez votre nom dessus, et après le cours, vous obtiendrez un crédit supplémentaire pour votre présence ici. Je fais cela de temps en temps juste pour récompenser le reste fidèle. De toute façon. D'accord. Après, je ne peux pas changer d'avis, je dois passer par là. Très bien, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que nous approchons en fait de la fin. Je veux laisser quelques jours, au moins un jour peut-être, pour regarder l'Apocalypse un peu en détail, même si évidemment, nous je manque de temps pour cela, mais je souhaite examiner deux documents aujourd'hui. C'est une autre fois où nous sortirons de l'ordre canonique, c'est-à-dire que nous examinerons deux livres, donc un qui est séparé l'un de l'autre dans son ordre canonique dans le Nouveau Testament, mais deux livres qui se ressemblent beaucoup et qui suggèrent qu'il existe une sorte de relation entre eux. Tout comme nous l'avons fait avec Colossiens et Philémon, nous avons suggéré qu'il y avait une relation étroite entre eux, dans le sens où ils étaient probablement adressés au même endroit, envoyés à une époque similaire, et si vous vous en souvenez, le Nouveau Testament n'est pas classé chronologiquement de toute façon, les livres n'apparaissent pas dans l'ordre dans lequel ils ont été nécessairement écrits, même lorsque vous voyez 1 et 2 Corinthiens, ou 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Pierre. 1 et 2 Timothée, nous ne pouvons pas nécessairement supposer que c'est le cas. L'ordre dans lequel ils ont été rédigés. Paul n'a pas écrit 1 et 2 Timothée en haut de sa lettre, ni Pierre n'a pas écrit 1 et 2 Pierre. Ce sont des désignations que nous leur avons données selon l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le Nouveau Testament, qui est parfois grossièrement long, ou logiquement, pas nécessairement chronologique. Mais il y a des moments où, même si les lettres ne sont pas classées chronologiquement, il peut y avoir des indices dans les lettres qui nous aident à déterminer quand elles auraient été écrites, et nous examinerons l'un de ces exemples aujourd'hui avec le second Pierre et Jude. Jude est une de ces lettres dont, du moins, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai entendu un sermon prêché sur l'un d'eux, ou un sermon prêché sur Jude, encore moins une référence à celui-ci ou quelque chose comme ça. Vous comprendrez pourquoi lorsque nous l'examinerons un peu en détail. Mais commençons par une prière, puis nous examinerons second Pierre et Jude. Père, merci de nous avoir amenés à ce point au cours du semestre, et alors que nous anticipons les deux dernières semaines, Seigneur, nous prions pour l'énergie et l'endurance, et Seigneur, la capacité de persévérer et de ne pas se sentir trop épuisé, découragé et fatigué. De tout ce que nous faisons, mais que nous saurons bien finir. Et Seigneur, je prie pour que malgré le beau temps et les autres endroits où nous préférons être et les choses que nous préférons faire, tu nous aides à concentrer notre attention pendant ce bref instant sur seulement une petite partie de ce que nous préférons faire. Avouez est votre véritable révélation pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Très bien, deuxième Pierre. Mon ordinateur vient de geler. Deuxième Pierre est, encore une fois, l'un de ces documents avec lesquels, comme un certain nombre de lettres de Paul que nous avons vues, pourraient être classées, et c'est important lorsque vous pensez en termes d'examen, en particulier l'examen final. Beaucoup de mes questions vous demandent parfois de relier des lettres ou des documents du Nouveau Testament en fonction de leur similitude les uns avec les autres. Deuxième Pierre est l'un de ces documents qui partagent des caractéristiques avec certaines des lettres de Paul que nous avons examinées et qui parlent d'une sorte de faux enseignement ou d'une sorte d'enseignement déviant, comme nous avons vu 1 et 2 Timothée, des livres comme Colossiens et Galates. Paul faisait face à des menaces contre l'évangile qu'il prêchait. Maintenant, dans 2 Pierre, contrairement à 1 Pierre, qui traitait d'une situation très différente, 2 Pierre aborde un problème d'enseignant qui était fondamentalement, un peu différemment de certaines des autres lettres que nous avons examinées, des enseignants qui étaient promouvoir une sorte d'antinomisme, c'est-à-dire promouvoir un enseignement qui exonère l'individu de toute autorité ou responsabilité de vivre sa vie d'une certaine manière. À partir de certains des exemples que nous voyons dans 2 Pierre, nous allons voir également qu'il faisait la promotion de cela en remettant en question le fait que Dieu allait réellement revenir et juger. Ainsi, l'une des façons dont ils ont fait cela est de remettre en question, nous verrons l'enseignement des apôtres et des prophètes de l'Ancien Testament. Si vous vous souvenez de votre cours d'enquête sur l'Ancien Testament, l'un des messages dominants des prophètes concernait à la fois le salut et le jugement, à savoir que Dieu reviendrait et jugerait la terre. Il semble que ces enseignants, quelle que soit leur identité précise dans 2 Pierre, remettaient en cause notamment le fait que Dieu allait revenir juger la terre. Par conséquent, si tel est le cas, ils pourraient vivre le style de vie qu'ils souhaitent. Et surtout, ils pouvaient s'adonner à tous les plaisirs, en particulier à l'immoralité sexuelle, sans craindre que Dieu revienne et juge. Cela semble donc être le principal problème. Ce sont ces enseignants qui remettaient en question le fait que Dieu allait réellement revenir et juger l'humanité et juger la méchanceté et le péché. Et s'il ne le fait pas, alors ils sont libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent. Ils sont libres de se livrer à toutes sortes d'immoralités sexuelles ou à tous les plaisirs qu'ils souhaitent parce que Dieu ne reviendra pas pour les juger. Et cela semble être la question ou le problème auquel l'auteur s'attaque. Le problème, c'est que les notes que je vais suivre se trouvent sur le transparent. Mais permettez-moi juste de parler un instant du genre ou du type littéraire de 2 Pierre. 2 Pierre, comme 2 Timothée, semble ressembler à un testament. Plus de points de crédit supplémentaires ici. Tout comme nous l'avons dit, 2 Pierre était en fait le dernier testament de Paul et son testament à ses lecteurs, où nous avons dit un testament qui était en quelque sorte un type littéraire courant au 1er siècle et menant au 1er siècle et pendant cette période. Le testament était essentiellement les dernières paroles d'un héros mourant. Quelqu'un qui était prêt à mourir transmettait sa dernière instruction. Et 2 Pierre ressemble aussi à cela. Et surtout les versets 12 à 15. Écoutez ces versets. Pierre dit, « C'est pourquoi j'ai l'intention de continuer à vous rappeler ces choses, même si vous les connaissez déjà et êtes établis dans la vérité qui vous est parvenue. Je pense qu'il est juste temps que je suis dans le corps de rafraîchir votre mémoire puisque je sais que ma mort ou mon départ viendra bientôt comme en effet notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait comprendre. » Et je ferai tous mes efforts pour qu'après mon départ vous puissiez à tout moment vous souvenir de ces choses. Cette déclaration a toutes les caractéristiques d'un testament. Ce sont les derniers mots d'un héros mourant alors qu'il fait face à la mort. Il transmet désormais ses instructions d'adieu pour rappeler à ses lecteurs ce qu'il leur a dit et ce qu'il leur a enseigné. Et donc, merci beaucoup. Et voilà. D'accord. Ainsi, Pierre, dans un sens, écrit un testament un peu comme 2 Timothée. Nous y reviendrons dans un instant. Mais comme je l'ai dit, la principale force derrière les faux enseignants est qu'ils essaient d'enseigner ou de convaincre les lecteurs de nier le jugement futur ou qu'il n'y aura pas de jugement futur, donc ils peuvent vivre comme ils le souhaitent, poursuivre n'importe quelle sorte de jugement. L'immoralité qu'ils veulent. Ainsi, le but de 2 Pierre est que Pierre écrit ensuite pour encourager ses lecteurs à mener une vie sainte dans le monde en maintenant leur confiance dans les Écritures principalement et dans le fait que Dieu va venir et à la fois juger et sauver. Ainsi, dans un sens, le message de Pierre est très prophétique. J'entends par là qu'il essaie de motiver ses lecteurs en leur rappelant et en leur communiquant un message de salut pour ceux qui sont fidèles mais de jugement pour ceux qui refusent. L'autre chose qui est importante à ce sujet et qui reviendra dans Judée, et nous l'avons vu à plusieurs reprises, lorsque nous pensons aux faux enseignements aujourd'hui, nous pensons généralement en termes intellectuels ou théologiques que quelqu'un qui est engagé dans un faux enseignement est quelqu'un qui s'écarte du point de vue théologique ou qui s'écarte de l'enseignement scripturaire clair. Cependant, il est intéressant de noter que les auteurs bibliques étaient tout aussi intéressés par la déviation éthique. Et nous allons voir dans 2 Pierre, 2 Pierre s'inquiète non seulement du fait qu'il ne croit pas aux bonnes choses, mais qu'il agisse également de manière incorrecte. Ou comme certains diraient qu'il ne s'intéresse pas seulement à l'orthodoxie mais aussi à l'orthopraxie. Ce faux enseignement est tout autant un mode de vie déviant qu'une manière d'enseigner déviante. Ce serait donc le but de vos notes. Voici comment Pierre accomplit son objectif. Il semble que dans la suite de sa lettre, Pierre va reprendre les objections de ses professeurs. Encore une fois, rappelez-vous que ces enseignants remettent en question le fait que Dieu va juger et qu'ils peuvent donc vivre comme ils le souhaitent. Il semble que Pierre va soulever une série d'objections au fait que Christ ne reviendra pas et que Dieu ne reviendra pas pour juger. Et Pierre va répondre à ces objections. Donc, objection numéro 1, et encore une fois, vous remarquerez que les chapitres et les versets ne correspondent pas à l'intégralité de 2 Pierre, mais je me concentre simplement sur le cœur de chaque section. Donc, nous allons simplement parcourir 2 Pierre en regardant simplement l'objection que les faux enseignants soulevaient à la venue de Christ pour juger, puis la réponse de Pierre à cela. Ainsi, la première objection était que les apôtres enseignaient le mythe au chapitre 1, versets 16 à 19. Donc, dans ces versets encore une fois, Pierre ne cite pas nécessairement les enseignants mais je pense qu'il résume ce qui est au cœur de leurs objections. Ainsi, dit-il, car nous n'avons pas suivi des mythes intelligemment inventés lorsque nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avions été des témoins oculaires de sa majesté. Or, cette phrase, nous n'avons pas suivi des mythes intelligemment conçus, résume probablement l'une des accusations des enseignants. C'est-à-dire que les apôtres comme Pierre et Paul et d'autres enseignaient simplement le mythe. Ce qui est important à ce sujet, c'est que l'un des messages des apôtres était qu'en effet Jésus allait revenir un jour et qu'il allait juger le monde. Ainsi, en discréditant le message apostolique selon lequel le Christ allait revenir, qui est la partie pas encore de notre tension déjà mais pas encore, par les apôtres enseignant au pas encore que le Christ reviendra un jour pour juger, en remettant cela en question, les faux enseignants feraient alors la promotion de leur antinomisme. Autrement dit, ils ne sont responsables d'aucun type de code de conduite ou de conduite éthique. Ainsi, les enseignants remettent en question l'enseignement apostolique. La réponse de Pierre est non, les apôtres étaient des témoins oculaires de la gloire de Dieu. Maintenant écoutez ça, c'est intéressant. Pierre dit, car il a reçu, se référant à Christ, car Jésus a reçu honneur et gloire de Dieu le Père lorsque cette voix lui a été transmise par la gloire majestueuse, disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venir du ciel alors que nous étions avec lui sur la montagne sainte. À quoi fait référence cet événement? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Il faut maintenant revenir aux évangiles. Ou au moins certains des apôtres sont-ils montés sur une montagne et ont-ils entendu une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, en lui je me complais. » La Transfiguration, Matthieu, Marc et Luc enregistrent tout la Transfiguration, un moment où Jésus est allé avec Pierre, Jacques et Jean sur une montagne et a été transfiguré devant eux, a été changé et a été enveloppé dans une nuée, c'était un phénomène plutôt surnaturel. Événement et ils entendirent la voix du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me complais, qui sort du livre d'Isaïe. » Pourquoi pensez-vous que Peter cite cela? En quoi est-ce une réponse? Comment cela va-t-il prouver que lorsque les apôtres ont dit que Jésus allait revenir et juger, ils n'enseignaient pas le faux ni le mythe? Comment cela prouve-t-il cela? Pourquoi Pierre ferait-il allusion à cet événement? C'est un événement de Transfiguration dans les évangiles, en fait il est rempli de toutes sortes d'images de l'Ancien Testament. C'était fondamentalement, dans un sens, un aperçu, c'était presque une préfiguration ou un aperçu en avant de la venue de Jésus dans toute sa gloire, dans son royaume pour juger et sauver. Donc, la raison pour laquelle Pierre cite cela est que non, nous étions des témoins oculaires de la gloire de Dieu lors de la Transfiguration, c'est-à-dire que nous avons eu un aperçu, nous avons eu un instantané ou un aperçu de ce que ce serait lorsque le Christ reviendrait dans toute sa gloire. Pour établir son royaume, pour juger et pour sauver. Ainsi, ils ont en quelque sorte eu un aperçu du pas encore présent lorsqu'ils ont vu Jésus transformé dans toute sa gloire et sa puissance en tant que Fils de Dieu qui reviendrait, jugerait et apporterait le salut. Donc, Pierre dit, non, nous avons été témoins oculaires du fait que Jésus va revenir et juger. Lorsque les apôtres pensaient que le Christ allait revenir et juger, ils n'enseignaient pas un mythe ou une fausseté, mais s'appuyaient plutôt sur un témoin oculaire. eux-mêmes ont vu le Christ, une sorte d'instantané, un aperçu avant jugement du Christ venant dans toute sa gloire lorsqu'il a été transfiguré sur cette montagne dans les évangiles. Deuxième objection, les prophètes avaient tout simplement tort. Chapitre 1 et versets entre 20 et 21. Tout d'abord, dit Pierre, vous devez comprendre ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une question d'interprétation personnelle, car aucune prophétie n'est jamais venue par la volonté ou la décision humaine, mais par des hommes et des femmes poussés par le Saint-Esprit qui ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, il s'agit très probablement d'une réponse ou d'un résumé de l'objection du faux enseignant, et c'est que les prophètes avaient tout simplement tort. Encore une fois, lorsque vous lisez les textes prophétiques de l'Ancien Testament, l'une des caractéristiques communes des prophètes, Ézéchiel et Jérémie, Isaïe, etc., est qu'ils ont également envisagé un jour où Dieu interviendrait et établirait son royaume et apporterait à la fois le salut et le jugement. Or, en remettant en question les prophètes, les faux enseignants remettaient en question leur message de jugement. Encore une fois, si les prophètes avaient tort, et donc il n'y a pas de jugement, et s'il n'y a pas de jugement, alors vous pouvez vivre comme vous le souhaitez. Nous ne serons pas responsables de nos actions immorales. La réponse de Pierre, comme nous venons de le lire, est non, les prophètes ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas tort. Il ne s'agissait pas simplement de prophéties intelligemment conçues, mais plutôt d'hommes et de femmes, et ils n'avaient pas tort devant Dieu. Les théologiens décrivent souvent les prophètes comme les porte-paroles de Dieu, et c'est l'un des textes dont ils tirent cette idée. Quelle que soit l'importance de leur propre style et de leur communication, Pierre indique clairement qu'en fin de compte, l'Esprit de Dieu a poussé les prophètes à annoncer ce message de jugement et de salut. Ainsi, lorsque les prophètes ont dit que Dieu reviendrait pour sauver et juger, il faut leur faire confiance parce que Pierre dit que leur message n'est pas celui de leur propre décision et de la volonté humaine, ce n'est pas de leur propre fait, mais ils proclament un message que l'Esprit de Dieu les a poussés à proclamer. Par conséquent, si les prophètes avaient raison et raison, alors leur message selon lequel il y a un jugement est correct, et la façon dont vivent les lecteurs importe donc. Ainsi, l'objection numéro 2 est répondue. Troisième objection, le jugement n'aura tout simplement pas lieu. Au chapitre 2 se trouve la réponse de Pierre à cela. Je ne lirai pas cette section, mais elle semble fondamentalement suggérer que les enseignants soutenaient simplement qu'il est tout simplement logiquement et théoriquement impossible et pragmatiquement impossible qu'un jugement ait lieu. Ce que fait Pierre dans le chapitre 2, c'est qu'il accumule un certain nombre d'histoires de l'Ancien Testament. Si vous revenez en arrière et lisez Pierre 2, vous verrez juste une histoire après l'autre de l'Ancien Testament, presque une sorte d'enquête sur l'Ancien Testament. Mais ce dont il s'agit, c'est l'histoire de la façon dont Dieu est intervenu et a jugé dans l'histoire d'Israël. Et vous pouvez voir le point de Peter pour faire cela. Il dit non, il n'est pas improbable que Dieu le juge. Ce n'est pas théoriquement impossible. Dieu l'a fait dans le passé. Regardez l'histoire d'Israël. Dieu a jugé dans le passé. Donc c'est tout à fait envisageable et c'est sûr qu'il jugera dans le futur. Ainsi, une fois de plus, les faux enseignants ont tort de remettre en question la plausibilité du jugement. Pierre dit qu'il suffit de regarder l'Ancien Testament pour voir que Dieu est fréquemment intervenu pour juger dans le passé. Et il en sera de même à l'avenir. L'objection numéro 4 du chapitre 3, versets 1 à 10, est que les faux enseignants semblent également dire que le fait que Dieu a tardé, le fait que Dieu n'est pas intervenu pour juger suggère qu'il n'y aura pas de jugement. En d'autres termes, le fait que Christ ne soit pas revenu depuis un certain temps, malgré ce que l'apôtre a dit et malgré ce que le prophète a dit, démontre qu'il n'y aura pas de jugement. Sinon, pourquoi ce retard? Encore une fois, la réponse de Pierre se trouve au chapitre 3, versets 1 à 10. Il dit que je vais commencer par les versets 8 à 10. Pierre dit, « Mais n'ignorez pas ce seul fait, bien-aimé, que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains d'entre vous le pensent, mais il est patient avec vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, qui, selon une métaphore utilisée par Jésus lui-même, viendra comme un voleur, et les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments seront dissous dans le feu, et la terre et tout ce qui s'y fera sera révélé ou divulgué. Donc, fondamentalement, la réponse de Pierre est que, ce qui est intéressant, même si je ne suis pas tout à fait sûr de savoir quoi penser du langage d'un jour est comme mille ans, mille ans comme un jour, la lenteur envers Dieu n'est pas comme la lenteur pour nous. Mais ensuite il ajoute également qu'il donne également à l'humanité une chance de se repentir. Donc, quoi que nous en fassions précisément, au moins, Peter dit que le fait qu'il y ait un retard a une raison. Cela ne remet pas en question le fait que Dieu va effectivement revenir et juger. Ce qui peut nous paraître un retard n'en est pas nécessairement un. Et il dit, en passant, que Dieu tarde peut-être à donner à d'autres le soin de donner à beaucoup une chance de se repentir avant le jugement à venir. C'est donc essentiellement Pierre dans le livre de 2 Pierre en un mot. Encore une fois, il me semble que la stratégie de Peter consiste alors à combattre ses enseignants qui tentent de remettre en question le fait qu'il y aura un jugement futur et que, par conséquent, les lecteurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce que fait Pierre, c'est qu'il semble reprendre une série d'objections ou d'objections possibles de la part des faux enseignants et y répondre et y répondre. La conclusion est donc que s'il doit y avoir un, la façon dont vivent les lecteurs est importante. Ainsi, il leur demande et les motive à vivre une vie sainte compte tenu du fait qu'il y a effectivement un jugement à venir et à ne pas se laisser duper par ces faux enseignants qui remettent en question ce jugement et suggèrent qu'ils peuvent vivre une vie de type antinomique. Des questions sur 2 Pierre. Il y a une autre chose que je veux dire à ce sujet, c'est que 2 Pierre est l'un des livres qui, peut-être plus que tout autre livre du Nouveau Testament, a été contesté quant à savoir si Pierre l'a écrit ou non. Même si beaucoup seraient d'accord pour dire que Pierre a écrit une pierre, un certain nombre d'entre eux ne seraient pas d'accord avec le fait qu'il ait écrit 2 Pierre pour un certain nombre de raisons. Lorsque vous comparez 1 et 2 Pierre, même parfois dans la traduction anglaise, mais surtout si vous étiez tout capable de lire le texte grec de 1 et 2 Pierre, si je vous ai donné un Nouveau Testament grec et que vous maîtrisiez assez bien votre capacité à lire, lisez-le, vous auriez beaucoup plus de facilité avec une pierre qu'avec 2 Pierre, je vous le garantis. Ainsi, certains ont suggéré que le style d'écriture, le type de grec et le vocabulaire sont tellement différents dans 2 Pierre de ceux de 1 Pierre que Pierre n'aurait pas pu l'écrire. Une autre raison est que nous venons de dire que 2 Pierre ressemble beaucoup à un testament dans sa forme. Nous avons dit qu'à partir du 2e siècle environ ou quelques siècles avant le 1er siècle et au 1er siècle et au-delà, il existait une forme courante connue sous le nom de littérature testamentaire, un testament, qui est un enregistrement des dernières paroles d'un héros mourant. Cela inclurait à la fois un enseignement de type éthique et parfois prophétique ou échatologique que vous trouvez dans 2 Pierre. Il est intéressant de noter que la plupart de ces testaments ont tendance à être pseudonymes, c'est-à-dire que nous en parlerons dans un instant, par exemple, nous avons un certain nombre de livres intitulés le testament d'Abraham, le testament d'Isaac, le testament de Jacob, le testament des 12 patriarches, un testament de Moïse, un testament d'Élie, mais le problème est qu'ils ne sont évidemment pas écrits par ces personnes. En d'autres termes, le testament d'Abraham n'a pas vraiment été écrit par Abraham, il a été écrit par quelqu'un après la vie d'Abraham, écrivant au nom d'Abraham. Et l'hypothèse est que les lecteurs auraient compris cela, ils n'auraient pas été trompés ou trompés en leur faisant croire qu'Abraham écrivait réellement ceci, mais ils auraient su qu'il s'agissait simplement d'un genre ou d'une forme littéraire reconnaissable et ils auraient su qu'Abraham ou celui qui n'a pas écrit ceci. Certains ont soutenu que parce que 2 Pierre est une forme de testament comme les autres testaments, il est probablement également pseudonyme. C'est-à-dire que quelqu'un après la mort de Pierre écrit maintenant au nom de Pierre comme quelqu'un l'a fait au nom d'Abraham ou au nom de Moïse ou au nom d'Isaac, un personnage bien connu du passé, maintenant quelqu'un écrit au nom de Pierre pour instruire les lecteurs d'aujourd'hui. Encore une fois, l'hypothèse est que les lecteurs n'auraient pas été trompés en pensant que Peter a réellement écrit ceci, que l'auteur n'essayait pas de les tromper, mais qu'il suivait simplement une convention littéraire standard consistant à écrire au nom de quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que certains pensent que 2 Pierre est un pseudonyme. Une autre raison est ce que certains érudits appellent le catholicisme primitif, c'est-à-dire qu'il existe un sentiment que nous pouvons déterminer et en quelque sorte extraire de la littérature des 1er et 2e siècles un mouvement au sein du christianisme que les érudits appellent le catholicisme primitif. Fondamentalement, ce que c'est une étiquette pour la croyance, la pensée et l'état de l'Église à la fin du 1er siècle et au 2e siècle, alors qu'elle commençait à s'installer dans la vie et à se préparer pour le long terme. Autrement dit, ils ont réalisé que Christ n'allait pas revenir tout de suite, et ils ont donc commencé à s'installer et à être prêts à vivre leur vie dans le monde. Ils deviennent plus institutionnalisés, etc., etc. Mais généralement, on pense qu'il s'agit du catholicisme primitif, et par catholicisme, je n'utilise pas ce terme en référence à l'Église catholique romaine, telle que nous la concevons. Le catholicisme était un terme qui faisait simplement référence à l'Église universelle, à l'Église de manière plus générale et plus large. Par conséquent, vous constatez souvent que nous avons dit que la collection de livres que nous examinons actuellement est souvent appelée les épîtres générales. Un autre nom pour elles est les épîtres catholiques parce qu'elles s'adressent à l'Église plus largement, à l'Église catholique, à l'Église universelle. C'est donc ce que j'entends par le catholicisme primitif, c'est-à-dire l'Église telle qu'elle s'est maintenant répandue et commence maintenant à s'installer et à s'établir. On a souvent pensé qu'il y avait trois caractéristiques du catholicisme primitif, l'Église vers la fin du 1er siècle et jusqu'au 2e siècle de notre ère, la première étant un déclin de la croyance dans le retour prochain du Christ. Je ne devrais pas parler d'un effacement du retour prochain, c'est un effacement de la croyance. Ainsi, l'hypothèse est très tôt, peut-être basée sur l'enseignement de Jésus et l'enseignement des apôtres, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens, que l'Église avait une attente vibrante que le Christ reviendrait bientôt, tout de suite. Mais maintenant, à mesure que cela devient évident, à mesure qu'il tarde, à mesure qu'il devient évident que Christ ne reviendra pas tout de suite, l'Église, son attente d'un retour prochain de Christ commence en quelque sorte à s'effacer au second plan. Et encore une fois, il commence en quelque sorte à s'installer pour vivre dans le monde. Une autre caractéristique du catholicisme primitif qui va de pair avec cela est l'institutionnalisation de l'Église, c'est-à-dire que lorsque l'Église commence à s'installer dans le monde et à s'y installer pour le long terme et qu'elle se rend compte que Christ ne reviendra pas immédiatement, alors il y a une nécessité pour l'Église de devenir plus institutionnalisée et plus structurée avec des diacres, des évêques et une hiérarchie, etc. Un troisième est la cristallisation de la foi. Il est davantage nécessaire d'avoir un ensemble de croyances assez définies auxquelles l'Église va désormais se tenir et souscrire. Et donc, on pense que ces trois éléments peuvent être trouvés dans 2 Pierre. Par conséquent, le raisonnement est le suivant, si ces trois idées, partout où vous voyez ces idées, si elles indiquent une Église qui existe depuis un certain temps, à la fin du 1er siècle, au 2e siècle, et si elles se trouvent toutes au 2e siècle, Pierre, alors cela doit être un document ultérieur que Pierre lui-même ne pouvait pas avoir ou n'a pas écrit. Encore une fois, je ne veux pas entrer dans les détails, mais premièrement, je me demanderai vraiment si l'Église a vraiment changé cela de manière substantielle. En fait, je pense que premièrement, je doute que la première soit nécessairement le cas. Il me semble que, tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, le retard et l'imminence du retour de Dieu s'équilibrent l'un avec l'autre. Nous avons déjà vu que Paul semblait penser, et dans 2 Thessaloniciens, qu'il pourrait y avoir un retard, afin que Christ ne revienne pas immédiatement. Rappelez-vous, il a averti les Thessaloniciens de ne pas penser qu'ils sont déjà au jour du Seigneur. Donc, pour moi, il ne me semble pas que, dans certains de ces documents que l'on pense être beaucoup plus tardifs, il ne semble pas que le retour prochain du Christ ait nécessairement disparu. Et ces deux éléments me semblent être davantage une question d'étendue que de présence, car, encore une fois, je pense que l'on peut trouver à la fois l'institutionnalisation de l'Église et la cristallisation de la foi dans certains des premiers documents du Nouveau Testament. Donc, je doute vraiment que la présence de trois d'entre eux soit suffisante pour dire que ce document doit être beaucoup plus tardif. Donc, en conclusion, il me semble qu'il y a vraiment, même si 2 Pierre est un livre difficile dans la mesure où il est difficile de démontrer que Peter Labell est bien écrit, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de bonnes raisons de le remettre en question. Pourquoi Pierre, par exemple, ne pouvait-il pas rédiger son propre testament? Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles deux Pierre semblent si différents de une Pierre, mais il n'y a vraiment pas assez de preuves pour, certainement, être sûr à 100% que Pierre l'a écrit, mais il n'y a vraiment pas de bonnes preuves pour nier qu'il l'a écrit également. Le témoignage de l'Église primitive était que Pierre l'avait effectivement écrit. Je vais donc partir du principe que Pierre, l'apôtre Jésus, la même personne qui a écrit une Pierre, a également écrit ce livre. Oui, tu as raison, c'est un autre problème. Il y en a encore moins que nous. Fondamentalement, tout ce que nous avons, c'est un et deux Pierre. Encore une fois, nous n'en avons vraiment pas assez pour dire, Peter n'aurait pas pu écrire ceci. Rappelez-vous, nous avons dit que même les statistiques étaient difficiles avec les lettres de Paul. Même si nous disposons d'un certain nombre de lettres de Paul, il n'y en a toujours pas assez pour conclure définitivement que c'est ainsi que Paul a toujours écrit ou que Paul n'aurait pas pu écrire ainsi. Donc probablement encore moins sûr à propos de Pierre, puisque nous n'avons essentiellement que un et deux Pierre pour continuer, dans la mesure où Pierre aurait écrit ou aurait pu écrire. Très bien, comme une sorte de transition vers le livre suivant, que nous allons maintenant passer à l'avant-dernier livre du Nouveau Testament, et c'est Jude. Mais comme une sorte de transition, il est intéressant de noter que lorsque vous comparez deux Pierre et Jude, vous remarquez rapidement un certain nombre de similitudes. Les similitudes sont souvent dans la même mesure que celles de Matthieu, Marc et Luc. Il y a une similitude d'idées. Il existe une similitude jusque dans le vocabulaire et la formulation entre certaines sections de 2 Pierre et Jude. Les similitudes sont suffisamment grandes pour que nous devons soulever la question suivante, quelle pourrait être la relation entre 2 Pierre et Jude? Il est peu probable qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Il existe très probablement une sorte de relation. Soit Pierre et Jude empruntaient une tradition similaire ou des histoires similaires qu'ils avaient tous deux à leur disposition, soit l'un des documents empruntés et connaissait l'autre. Encore une fois, je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails, mais il semble que ce qui est communément, je pense, de plus en plus accepté maintenant est que Jude a probablement été écrit en premier, et deux Pierre a ensuite utilisé la majeure partie de Jude. En fait, une grande partie de Jude se trouve dans 2 Pierre, mais 2 Pierre contient beaucoup de matériel qui n'est pas dans Jude. Très probablement, 2 Pierre, ou l'auteur de 2 Pierre, avait accès à Jude et utilisait Jude, ou à tout le moins, avait accès à exactement la même collection d'histoires que Jude, puis utilisait ses histoires et ajoutait ensuite les siennes. Le matériel également. Je dirais que Jude a probablement été écrit en premier, puis 2 Peter a utilisé Jude, mais d'autres éléments. Encore une fois, il est possible que ce soit l'inverse, que Jude ait emprunté à 2 Pierre, et cela expliquerait les similitudes. La difficulté est que, d'après cette lecture, vous pourriez avoir un peu plus de difficulté à expliquer pourquoi Jude serait écrit s'il ressemble si étroitement à 2 Pierre, mais laisse ensuite de côté une grande partie de Pierre. Pourquoi Jude prendrait-il simplement une partie de Peter et ne suivrait-il pas le reste? Alors qu'il est un peu plus logique dans l'autre sens, de dire que Peter a utilisé tout Jude, mais qu'il a ensuite voulu développer et ajouter une partie de son propre matériel. Mais encore une fois, vous pouvez voir que l'ordre dans lequel les livres apparaissent dans le Nouveau Testament n'est pas nécessairement indicatif de l'ordre dans lequel ils ont été écrits. Mais encore une fois, l'opinion commune semble être que Jude a été écrit en premier, puis 2 Pierre, mais il pourrait certainement être l'inverse. Maintenant, la prochaine question évidente est, pourquoi le livre de Jude? Tout d'abord, juste pour soulever une question, ce n'est pas nécessairement dans vos notes, mais juste pour réfléchir un peu, pourquoi un livre comme Jude serait-il inclus dans le Nouveau Testament? D'autant plus qu'une grande partie se trouve déjà, comme nous l'avons dit, dans 2 Pierre. Vous pouvez trouver pratiquement tout dans Jude déjà dans 2 Pierre. Pourquoi un livre comme Jude, comme nous allons le voir dans un instant, Jude est-il l'un des livres les plus étranges que vous ayez jamais lu, du moins j'ai jamais lu dans le Nouveau Testament? Avant, je pensais que l'Apocalypse était étrange, et c'est toujours le cas à certains égards, mais Jude contient des éléments très étranges. En fait, écoutez, nous parlerons davantage de celui-ci, mais c'est ainsi qu'écrit Jude. Il dit, maintenant, je désire vous rappeler, bien que vous soyez pleinement informés, que le Seigneur, qui a sauvé une fois pour toutes un peuple du pays d'Égypte, a ensuite détruit ceux qui ne croyaient pas. Et les anges qui n'ont pas gardé leur propre position, mais ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres éternelles et les plus profondes pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes, de la même manière qu'elles se livrent à l'immoralité sexuelle et poursuivent des convoitises contre nature, servent d'exemple. Mais de la même manière, ces rêveurs ont également souillé la chair, rejeté l'autorité et calomnié les glorieux. Mais lorsque l'archange Michel affronta le diable et discuta au sujet du corps de Moïse, il n'osa pas porter plainte contre lui. De quoi s'agit-il ? Et toute cette section de Jude contient quelques histoires plutôt étranges comme celle-ci. Donc, en raison de sa brièveté, du fait que la majeure partie se trouve déjà dans 2 Pierre de toute façon, pourquoi pensez-vous qu'un livre comme celui-ci a pu être accepté dans le canon du Nouveau Testament ? Et une partie du problème est de savoir qui est Jude ? Je l'ai entendu, quelqu'un l'a dit. Allison le ferait. Le frère de Jésus. Jude est l'un des frères de Jésus. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Jude figurerait dans le canon du Nouveau Testament, étant très semblable à Jacques, qui est le frère de Jésus. Jude étant un parent de Jésus, étant l'un des frères de Jésus, il est alors probable que son livre soit envisagé pour être inclus dans le Nouveau Testament. Très bien. Maintenant, le but de Jude donc, Jude alors naturellement, parce qu'il a en grande partie le même matériel que 2 Pierre, cependant, vous comprenez la relation, naturellement Jude semble aussi combattre un enseignement de type antinomianisme, comme c'était le cas avec 2 Pierre. C'est encore une fois enseigné que l'on peut poursuivre toutes sortes d'immoralités sexuelles et se livrer à toutes sortes de désirs et de plaisirs que l'on veut sans aucune responsabilité ou sans aucune autorité. Cela semble être le cœur des faux enseignants derrière Jude. Pourtant, encore une fois, la question se pose de savoir exactement où Jude a été écrit, à qui Jude a-t-il été écrit, quels sont les lecteurs précis, où étaient-ils et quelle était la nature de cet enseignement. Certains ont suggéré un enseignement de type gnostique. Je n'ai aucune idée. Il aurait pu s'agir davantage d'un type juif, même s'il serait difficile de voir pourquoi il ferait la promotion du genre de style de vie que vous lisez, apparemment. Dans le verset que je viens de lire, il dit, « Mais de la même manière que ces rêveurs, c'est l'étiquette que Jude donne aux enseignants, ces rêveurs souillent aussi la chair, rejettent l'autorité et calomnient les glorieux. » Donc, je ne suis pas tout à fait sûr de qui étaient exactement les enseignants ni de l'endroit où ils auraient été situés, mais d'après ce que nous pouvons dire en lisant Jude, encore une fois, comme les enseignants de 2 Pierre, ils se posaient des questions, ils remettaient en question la nécessité de vivre de manière responsable et promouvoir plutôt un antinomisme qui consiste à vivre sans autorité, à se livrer à tout le désir et à tout le plaisir que l'on souhaite, et à ne pas avoir à se soucier du jugement ou de quoi que ce soit de ce genre en conséquence. Cela semble être ce à quoi Jude s'adresse, donc très, très similaire à 2 Pierre. Bien qu'il ne soit pas aussi clair dans Jude qu'il nie un jugement à venir ou quelque chose comme ça. Dans 2 Jude également, Jude a peut-être abordé le fait que, lorsque vous commencez à lire de nombreux documents, même en dehors du Nouveau Testament, au début du christianisme, l'un des problèmes auxquels l'Église primitive était confrontée était une sorte de prédicateurs itinérants et de groupes d'individus qui aimaient d'aller de ville en ville et de promouvoir différents enseignements et d'enseigner réellement des choses comme celles que l'on pourrait trouver dans Jude. Donc, on soupçonne que Jude, quelle que soit la personne à qui il s'adresse, que ses lecteurs soient soumis à ces prédicateurs itinérants qui se déplacent d'un endroit à l'autre et voyagent pour enseigner cette idée antinomique dont on n'est pas responsable, je veux dire. Nous n'avons pas à nous soucier du jugement et on peut vivre comme on veut et poursuivre tous les plaisirs que l'on choisit. Et donc, comme 2 Pierre alors, Jude va répondre à cela pour convaincre ses lecteurs de ne pas céder à cela. Ainsi, par exemple, au verset 3, le but de Jude semble être résumé dans le verset 3, « Bien-aimé, alors qu'il se prépare avec impatience à vous écrire au sujet du salut que nous partageons, ce qui suggère que Jude allait apparemment s'asseoir et écrire une lettre, mais maintenant il a reçu cette information troublante et maintenant il va changer de cours et écrire autre chose. » Ainsi, il est dit, bien-aimé, tout en me préparant avec impatience à vous écrire au sujet du salut que nous partageons, je trouve nécessaire de vous écrire et de vous appeler à lutter pour la foi qui a été confiée une fois pour toutes aux saints. Cela semble résumer le but de Jude. Il veut qu'ils combattent pour la foi, mais il précisera cependant que, comme nous le verrons dans la lettre, la foi dont il parle n'est pas seulement un assentiment à un certain corps de croyance, mais elle a tout à voir avec leur éthique et leur façon de vivre également. Ainsi, Jude écrit ensuite pour aborder ce problème de faux enseignements. Peut-être que ces enseignants itinérants qui enseignent cet antinomisme les avertissent de ne pas céder à cela, mais plutôt de lutter pour la foi, à la fois théologiquement, moralement et éthiquement, de lutter pour la foi qui leur a été transmise. Maintenant, la façon dont Jude fait cela, et c'est, je pense, comment vous comprenez la lettre. Fondamentalement, la façon dont Jude fera cela, la façon dont il les amènera à résister à cette influence antinomienne et à lutter pour la foi, c'est qu'il va, comme 2 Pierre au chapitre 2, raconter un certain nombre d'histoires. Et ce que ces histoires ont toutes en commun, ce sont deux choses. Premièrement, ils viennent de l'Ancien Testament. Ainsi, presque tout le livre de Jude n'est qu'une liste d'histoires de l'Ancien Testament. Deuxièmement, ils ont tous à voir avec Dieu jugeant le mal et les mauvais comportements, en particulier l'immoralité. Ainsi, par exemple, remarquez le premier que nous avons examiné, à partir du verset 5. Le verset 5, et Jude n'a qu'un seul chapitre, donc il n'y a pas de chapitre 1, ni de chapitre 2, ce sont tous des versets. Ainsi, le verset 5 commence par « Maintenant, je désire vous rappeler, bien que vous soyez pleinement informés, que le Seigneur, qui une fois pour toutes sauva un peuple hors d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne croyaient pas. Ainsi, bien qu'il ait sauvé son peuple d'Égypte, à cause de sa rébellion et de sa désobéissance, il l'a détruit lorsqu'il errait dans le désert, et il l'a essentiellement tué et a suscité une nouvelle génération qui entrerait désormais dans la terre promise. » Ainsi, Jude dit, de la même manière, même si Dieu n'a pas épargné son propre peuple, qu'il a délivré d'Égypte, à cause de la rébellion, alors il continue et dit, et les anges qui n'ont pas gardé leur propre position, mais il a quitté sa propre demeure, il est resté dans les chaînes et le jugement éternel. Mais celle-ci, de même Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes, qui, de la même manière qu'elles, se sont livrées à l'immoralité sexuelle et ont poursuivi des convoitises contre nature, servent d'exemple en subissant le châtiment du feu éternel. Celui-là résume vraiment le cœur des exemples de Jacques, qu'il donne des exemples de ceux qui se sont rebellés dans l'Ancien Testament, en particulier dans le domaine de l'immoralité, et ensuite Dieu les a jugés. L'implication est donc que les lecteurs feraient mieux d'être conscients de ne pas céder à ces faux enseignants antinomiens. Parce que si Dieu a jugé dans le passé, il peut certainement le faire et il le fera certainement encore, pour les mêmes types de comportements pour lesquels les gens étaient jugés dans l'Ancien Testament. C'est tout son argument. Cependant, vous remarquerez dans les notes que je vous ai donné quelques exemples intéressants, juste quelques-uns de ces exemples qui sont plutôt intrigants. Qu'en est-il au verset 6 des anges qui n'ont pas conservé leur position d'autorité? Nous avons déjà examiné cet exemple dans 1 Pierre. J'ai suggéré de rappeler le passage de 1 Pierre 3 sur lequel nous avons passé du temps. Cette idée du Christ allant vers les esprits en prison, qui s'étaient rebellés au jour de Noé, et maintenant nous sommes en prison en attendant le jugement. Cela vient probablement de cette tradition de la littérature juive qui interprétait le chapitre 6 de Genèse, les fils de Dieu qui descendaient et avaient des relations avec les filles des hommes, interprétaient les fils de Dieu comme des êtres angéliques, qui maintenant, selon la littérature juive, qui maintenant sont en prison, enchaînés, attendant le jour du jugement. Et maintenant, je pense que 2 Pierre répète la même histoire. 2 Pierre, verset 6 répète cette même histoire dans une formulation légèrement différente de celle que nous avons trouvée dans 1 Pierre, chapitre 3. Ainsi, 2 Pierre, verset 6, fait ensuite allusion au chapitre 6 de la Genèse tel qu'interprété dans la littérature juive, qui le lit comme des êtres angéliques qui ont transgressé, qui ont abandonné leurs positions et ont transgressé les limites de Dieu, et ont donc été enfermés dans le jugement, enchaînés, en attendant le jour final du jugement. Et Pierre, encore une fois, y fait allusion. Et évidemment, c'est un très bon exemple de ce qu'il veut prouver, que leurs actions immorales ou leurs actions qui ont contrecarré l'autorité ont en réalité des conséquences désastreuses, c'est-à-dire le jugement. Mais qu'en est-il de celui du verset 9 que nous venons de lire? Mais lorsque l'archange Michel affronta le diable et discuta au sujet du corps de Moïse, il n'osa pas le condamner ou le calomnier. Mais il a dit que le Seigneur vous réprimande. Maintenant, ma question est la suivante, à quoi cela fait-il référence? Tout d'abord, où lit-on la mort de Moïse dans l'Ancien Testament? Est-ce que quelqu'un se souvient où c'est? Ou juste grossièrement? Oui, Deutéronome, vers la fin du Deutéronome. En fait, vous ne lisez pas beaucoup de choses sur la mort réelle ou ne lisez rien sur l'enterrement de Moïse ou quoi que ce soit de ce genre. Mais je vous mets au défi de lire le Deutéronome, de lire tout l'Ancien Testament et d'y trouver cette histoire n'importe où. Ce n'est pas là. Il n'y a aucune mention nulle part, surtout dans le Deutéronome, il n'y a aucune mention nulle part de l'archange Michel. Vous avez entendu parler de lui dans l'Ancien Testament. Vous avez lu des articles sur lui dans l'Apocalypse et dans d'autres publications juives. Mais vous ne trouverez nulle part dans le Deutéronome de l'Ancien Testament cette histoire de l'archange Michel se disputant avec Satan au sujet du corps de Moïse après sa mort. Vous ne trouverez cela nulle part. Alors, la question est, que fait Jude? Est-ce qu'il a inventé ça? Ou bien manquons-nous une partie de l'Ancien Testament? Où trouve-t-il ça? En fait, il existe une œuvre juive qui ne figure ni dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau Testament. Nous avons déjà fait référence au Testament et à la littérature testamentaire comme le Testament d'Abraham et le Testament d'Isaac. Nous avons dit que 2 Pierre et 2 Timothée ressemblaient à un testament. Nous avons un ouvrage appelé le Testament de Moïse. Selon d'autres écrits écrits à cette époque, le testament de Moïse avait autrefois une fin qui a apparemment été perdue, une fin qui contenait l'histoire de l'archange Michel se disputant avec Satan au sujet du corps de Moïse. Il y avait exactement cette histoire. Donc, très probablement, Jude ne s'appuie pas seulement sur l'Ancien Testament, mais sur certaines histoires et sur certaines façons dont d'autres littératures juives ont interprété l'Ancien Testament. Encore une fois, revenons au Deutéronome. Vous ne trouverez jamais cela ni tout l'Ancien Testament. Vous ne trouverez nulle part cette histoire de l'archange Michel se disputant avec Satan au sujet du corps de Moïse. Mais apparemment, c'est dans un ouvrage, encore une fois, appelé le Testament de Moïse, que l'on peut en lire une traduction anglaise. Mais vous ne retrouverez pas cette histoire car apparemment elle a été perdue. Mais d'autres écrits écrits à l'époque nous disent qu'à une certaine époque, le testament de Moïse avait apparemment cette fin qui contenait cette histoire du diable et de l'archange Michel se disputant et se disputant sur ce qu'il fallait faire du corps de Moïse. Et à moins que d'autres preuves n'apparaissent, c'est probablement de là que Jude l'a obtenu. Mais encore une fois, le plus important, comme je l'ai dit, est de comprendre simplement le but et la fonction de toutes ces histoires. Même si certaines d'entre elles nous sont un peu étranges et difficiles à comprendre, la fonction globale de toutes ces histoires, les histoires de Jude visent à démontrer que, tout comme Dieu a jugé le mal et la méchanceté dans le passé, il le fera à nouveau. Les lecteurs doivent donc faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas céder à cet enseignement antinomique. Mais au lieu de cela, comme Jude se termine au verset 24, le dernier appel de Jude s'adresse désormais à celui qui est capable de vous empêcher de tomber. C'est-à-dire s'éloigner de la foi pour laquelle ils doivent lutter, ce qui inclut leur obéissance, leur éthique et leur sainteté. Maintenant à celui qui est capable de vous empêcher de tomber et de vous faire tenir debout sans défaut en présence de sa gloire avec joie. C'est donc son objectif pour les lecteurs. Ils ne cèdent pas à ses enseignants antinomiens, mais ils prennent à cœur ces exemples de l'Ancien Testament où Dieu juge le mal et la méchanceté, et recherche plutôt la sainteté. Et par conséquent, au lieu de se tenir devant Dieu en jugement, ils se tiendront un jour sans défaut en sa présence et dans sa gloire. D'accord. Des questions sur Jude. J'ai un livre très court. Quelqu'un a-t-il déjà entendu un sermon prêché sur Jude? Je ne pense pas l'avoir jamais fait. Vous pouvez en quelque sorte comprendre pourquoi lorsque vous lisez le livre. Certaines choses dont je ne sais pas quoi faire. mais dans l'ensemble, je pense que le message est assez clair.
Ouais, une question.
Alors pourquoi avoir les deux?
Pourquoi Pierre et Jude?
Ouais, eh bien, je pense que la principale raison, encore une fois, pour inclure Jude était principalement dans les références de qui était Jude en tant que frère de Jésus. Mais encore une fois, je pense que l'une des choses qu'elle fait dans le cadre du canon plus large est de renforcer le message selon lequel l'Église ne tolérerait pas l'antinomisme, le rejet de l'autorité et la désobéissance, mais qu'elle prenait cela au sérieux. Et que le peuple de Dieu est appelé à rechercher la sainteté et à vivre une vie de sainteté afin qu'à la fin de Jude, nous nous tenions sans défaut dans la présence de Dieu plutôt que d'affronter sa colère et son jugement. Donc, je pense que cela renforce plus ou moins ce que Peter fait d'une manière un peu différente. Mais surtout, je pense que c'est en grande partie grâce au laurier de Jude en tant que frère de Jésus que cela a permis que cela entre dans le Nouveau Testament.
Bien.
D'accord. Et, passe un bon week-end.
Et je te verrai lundi.
D'ailleurs, jeudi prochain, tout de suite, je t'enverrai un email, c'est sûr. Mais jeudi prochain, je prévois d'avoir une séance supplémentaire, il y aura une autre séance supplémentaire d'évaluation du crédit. Il s'agissait du Dr Dave Mathewson dans Histoire et littérature du Nouveau Testament, conférence numéro 32 sur 2 Pierre et Jude.